Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Voici la troisième émission consacrée à l'aéropostale et racontée par Axel Mauger. Les deux précédentes émissions sont disponibles à l'écoute ou au téléchargement dans notre médiathèque.
Ce manque de vision, de patriotisme, on le retrouve aujourd'hui en écoutant avec stupéfaction certains Français se moquer de voir leur langue se dégrader. Un vif sentiment d'admiration nous saisit lorsque nous apprenons que les héros de l'aéropostale continuèrent à vaincre les tempêtes sans toujours recevoir leur solde durant la période de liquidation. À Paris, Mermoz se battit tel un beau diable pour expliquer ce qu'était la ligne, une œuvre plus qu'une affaire. La thématique du film « L'argent » du réalisateur Marcel Lherbier illustre bien l'opposition entre d'une part l'œuvre à accomplir et d'autre part l'argent prêt à broyer tout sur son passage. « L'argent, ce fumier sur lequel poussent les fleurs » a écrit quelque part Émile Zola. Témoignant au palais de justice, Mermoz n'hésita pas à se dire surpris de voir tant de haine se déchaîner contre la plus éclatante réussite française à l'étranger et pourtant en dépit des coups très durs qu'elle recevait, les ailes françaises ne battirent pas complètement en retraite, ainsi qu'en témoignent entre autres les prouesses techniques de l'ingénieur Cousinet, créateur de l'arc-en-ciel en 1929. Avion, dont les performances, précisons-le, ne furent égalées qu'en 1934 par l'ingénieur américain Sikorsky. Cousinet comprit que l'époque des avions monomoteurs était révolue et qu'une machine volante plus sécuritaire, devait être équipé de plusieurs moteurs. En cas de panne de l'un d'entre eux, il était impératif de pouvoir poursuivre le vol en comptant sur ceux qui fonctionnaient. Grâce à la qualité de ce nouvel avion, Mermoz crut que la ligne menacée pouvait être sauvée. Pour lui, la bataille de l'Atlantique Sud semblait gagnée par les Français puisqu'aucun autre avion au monde n'avait été capable jusqu'à ce jour de couvrir 25 000 km à 220 km/h de moyenne, de traverser deux fois l'océan, de voler 700 km au-dessus de la mer avec un moteur stoppé, de revenir à son point de départ et de se retrouver, une fois réparé, prêt à repartir. Mais ce qui était une œuvre pour l'aviateur devint une simple affaire à expédier pour les politiques, si bien que le pavillon français disparut progressivement des routes aériennes de l'Amérique du Sud. Quelques mois plus tard, faute de s'y être intéressé, la France perdit la clé de l'Atlantique Nord, décourageait l'illustre Cousinet du fermer son usine, et pourtant, grâce à la présence de l'action de Mermoz, l'aviation française était encore capable de traverser l'Atlantique d'un seul vol, alors que les Allemands n'en avaient pas la capacité. Tel un fauve, il tempêtait, menaçait et accusait. Hélas, faute de matériel de rechange, les aviateurs français restaient le plus souvent au sol. Dans cette atmosphère irrespirable, la mort de Colnau accabla Mermoz. En apprenant la disparition de son ami, il se laissa crouler dans le fauteuil de Jean-Gérard Fleury. Ses mains se crispèrent autour de son front. Il demeura longtemps ainsi, le regard inaccessible, raconte Joseph Kessel dans son livre sur le pilote intrépide. Joseph Kessel, Mermoz, Folio, Paris, 1991. Au défaitisme entretenu par certains politiciens français, répondait en revanche une fiévreuse activité germanique. Le comte Zeppelin se lança alors à l'assaut de l'Amérique latine. Au cours de cette période, son dirigeable, le LZ-127 Graf Zeppelin, traversera pas moins de 126 fois l'Atlantique Sud jusqu'à son retrait du service qui fut décidé le 18 juin 1937. La mollesse française continue à désespérer Mermoz qui haïssait la mentalité de vaincu, rendu furieux. Il dénonça sans ambiguïté le mal dont souffrait notre pays. La France qui agit, la France qui travaille, qui se dévoue au bien de tous, est constamment brimée, paralysée par la France qui parle. Après avoir quitté l'aéropostale, Didier Dorat créa la société Air Bleu, ne recevant aucune aide de l'État. Air Bleu, n'en déplaise à ses détracteurs, fut une éclatante réussite, un modèle d'exploitation. Les anciens de la ligne, à peine âgés de 35 ans, s'y retrouvait, il n'oubliait pas de rendre visite à Marcel Bouilloux-Lafont, ruiné, devenu aveugle. Ce dernier leur confia, je cite, « Ce qui me pèse surtout, c'est que le désastre de l'aéropostale, provoquée par ma confiance dans la parole du gouvernement français, a entraîné la ruine d'entreprises prospères constituées avec des capitaux français. Un peu plus tard, une opération lui rendit heureusement l'usage d'un œil. Avec une ténacité surprenante compte tenu de son état, le vieil homme s'efforça de ramasser quelques bribes de son empire. La mort le surprit le 2 février 1944, alors qu'il s'attelait à cette tâche. Marcel Bouilloux-Lafont, à qui l'aéropostale et les ailes françaises doivent tant, repose au cimetière brésilien de São João Batista. Calé confortablement dans notre fauteuil, nous essayons d'imaginer la vie hors du commun de cet entrepreneur, de ce bâtisseur d'empire. Plus de 50 ans après sa disparition, il est important de perpétuer sa mémoire. Comme il est important de rappeler que durant les années 1920 et 1930, plus de 100 pilotes et techniciens ont donné leur vie afin de développer les relations avec la France, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Souvenons-nous de Saint-Exupéry, qui lors d'un voyage en Allemagne avait rencontré les chefs de la Luftwaffe, les directeurs des usines, les pilotes, les ouvriers, et avait pu constater avec quelle ardeur tous ces hommes travaillaient pour produire alors que dans notre pays, les grèves succédaient aux grèves. Mermoz n'arrêta pas de fustiger la bêtise des politiciens jusqu'au jour fatidique du 7 décembre 1936 où il monta à bord de la Croix du Sud, s'envola au-dessus de l'Atlantique et ne revint jamais. En juillet 1937, 7 mois et demi après la disparition du héros, Air France et le ministère de l'Air signaient une entente avec la Deutsche Lufthansa. Les Allemands qui n'avaient pas réalisé le quart de l'œuvre accomplie par nos pilotes surent en tirer de juteux bénéfices. Quelques années plus tard, en 1944, Saint-Exupéry, autre chevalier légendaire des ailes françaises, disparut aux commandes de son avion au-dessus de la Méditerranée. Avec sa disparition, une épopée s'achevait. Au moment où nous terminons le livre magnifique de Jean-Gérard Fleury, belle coïncidence, le commandant de bord annonce que nous approchons des côtes françaises. N'ayant pas dormi une seule seconde, tant l'histoire racontée par ce témoin privilégié de cette aventure extraordinaire nous a remué le cœur, il nous faut retenir le message de ces héros, je cite, « Ne faut jamais renoncer à se battre, ni à désespérer de rien. » En toutes circonstances, surtout dans les moments difficiles, il est vital de garder, ne serait-ce qu'un filet d'espoir. La France vainqueur en 1940 s'est redressée grâce à l'action du général de Gaulle, qui, ne l'oublions pas, revenu au gouvernement, a encouragé la construction du Concorde, avion civil jusqu'à présent inégalé. Que dire de l'indomptable Marcel Dassault, de tant d'autres ingénieurs, souvent méconnus du public, qui ont permis le superbe renouveau aéronautique français? Peu de gens se souviennent d'un épisode de la guerre des Malouines où un pilote argentin, le capitaine de frégate Augusto Bedacaratz, d'origine basque, qui, aux commandes d'un super-étendard, a coulé au moyen du missile français Exocet le navire britannique le Sheffield. Presque personne ne sait que cet aviateur a été formé en France à la base aéronavale bretonne de Landivisiau. Après le conflit auréolé par cet exploit, ce valeureux pilote a été nommé chef de la flottille aéronavale argentine de 1985 à 1988, avant de prendre une retraite méritée et de devenir un gentleman farmer. Il vit aujourd'hui dans son estancia, sise en pleine pampa. Même si ce fait d'armes est attristant pour nos amis britanniques, il prouve l'excellence retrouvée des Français dans le domaine aéronautique. Excellence retrouvée d'abord dans l'aviation civile, ensuite dans l'aviation militaire, enfin dans la conquête de l'espace, ainsi qu'en témoigne la réussite d'Ariane. Tandis que l'Airbus se pose impeccablement sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle grâce à Saint-Exupéry, à Jean Mermoz et à tous ses francophiles argentins, nous n'oublierons rien de l'esprit de la ligne qu'unit encore dans l'ombre bienfaisante la France à l'Argentine, la France à l'Amérique du Sud, continent resté malgré la distance proche de nous. Et surtout, n'oublions pas que le 27 juin 2007 marque le 80e anniversaire de la création de l'aéropostale. Si cette aventure vous plaît, vous fascine, vous passionne, vous pouvez parfaitement la retrouver dans mon livre qui s'appelle « Les élites argentines et la France », publié aux éditions de l'Harmattan en 2004. Mais en attendant, vous pouvez parfaitement télécharger gracieusement cette belle émission sur l'aéropostale dans notre médiathèque. Merci.